Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver dans Par les temps qui courent, tous les soirs, une heure de discussion avec un artiste ce soir, Stéphane Balkenhol.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, taper.
Ça y est, je suis 21.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux avec Stéphane Balkenhol.
Une main sur la hanche pour l'un, les bras croisés pour l'autre, des hommes et des femmes apparaissent sur les façades d'immeubles dessinées par Auguste Perret au Havre. Ils sont là. Ils attendent, peut-être regardent-ils autant les habitants qu'ils ne sont regardés. Ils portent un certain mystère autant qu'une forme de quotidienneté. Ils sont des badauds et des anges. Qui a déjà croisé vos sculptures, Stéphane Balkenhol, connaît cette forme très singulière de présence. Le plus souvent, vos silhouettes sont taillées dans le bois. Ici, elles sont en céramique, mais le jeu des échelles reste toujours, ou plutôt, il est encore augmenté, puisqu'elles se trouvent ainsi comme posées à plusieurs mètres du sol. Vous êtes l'un des grands invités de la manifestation Un été au Havre, qui dure jusqu'au 22 septembre, et la riche diversité de votre travail artistique se découvre aussi, toujours au Havre, toujours dans le cadre du festival, mais dans une exposition, cette fois-ci plus classique, comme on dit. C'est au Portique, au Centre d'Art Contemporain, et ça c'est jusqu'au 29 septembre. Bonsoir, Stéphane Balkenhol.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu.
Merci.
Je vous remercie, au nom de nos auditrices et nos auditeurs, de nous parler en français pendant une heure. C'est sympa.
J'essaie, au mieux.
Puisqu'on parle du Havre, et on parle de cette installation des apparitions, on va écouter Auguste Perret.
Il nous faut, voyez-vous, c'est du charbon. Ciment, charbon. Plâtre, charbon. Chaux, charbon. Tuiles, charbon. Fer, charbon.
Évidemment. Voilà. Et j'espère tout de même que nous en aurons et que la ville pourra être reconstruite, parce que c'est une des celles qui a été le plus touchée.
Oui, alors c'est la plus touchée de France, c'est évident. Peut-être est-ce dû surtout à la nature de sa construction, qui était faite de briques, et que la brique résiste très mal à l'explosion. Enfin, la brique se couche tout de suite.
Mais la ville ne sera pas reconstruite en briques, alors?
Mon intention, c'est de la reconstruire en pente béton armé. Je pense que c'est le moyen actuel de satisfaire le plus économiquement aux besoins des hommes. Et si je préconise la couverture en terrasse, je n'exclus pas les toits, mais je préconise la couverture en terrasse parce que un étage carré, habitable, couvert d'une terrasse, coûte moins cher qu'un toit avec ses noues, ses coupes, ses lucarnes, ses multiples descentes, et qui est inhabitable.
Alors souhaitons que les habitants du Havre retrouvent rapidement, enfin le plus rapidement possible.
Nous ferons de notre mieux. Nous ferons de notre mieux et nous tâcherons de faire, comme l'a dit le général de Gaulle, de faire du nouveau et du raisonnable.
Pragmatique bâtisseur, Auguste Perret, en 1945, donc vraiment juste après la guerre. Vous aviez quoi comme connaissance de cette ville, comme rapport avec cette ville, avant que d'y installer, donc ici sur les façades de Perret, mais aussi dans la bibliothèque Neumeyer et puis au Partique, vos œuvres, Stéphane Balkenhol?
Enfin, j'ai découvert le Havre que l'année dernière, à l'occasion de ma première visite, sur l'invitation pour cette manifestation, sur cette expo. Et j'étais assez impressionné par cette ville, parce que je connais des villes qui ont été complètement détruites pendant la guerre en Allemagne, car j'habite d'une partie à Kassel, une ville qui a été aussi complètement détruite. Et là, ils ont reconstruit aussi dans les années 50, mais c'est plutôt une manière de nécessité et de mais un peu aussi de tristesse. Enfin, il n'y avait pas de inspiration artistique d'un architecte dans la mise en place des bâtiments. Par contre, au Havre, c'est une création d'un seul architecte qui a pu faire les plans de la ville. Et d'un côté, ça m'a aussi fait penser à Berlin de l'Est, enfin les bâtiments soviétiques des années 50, mais au Havre, c'est beaucoup plus humain, c'est lumineux, il y a de l'espace, les fenêtres, c'est à la française jusqu'au sol. En tout cas, j'étais très impressionné, je trouvais que c'était très beau et habitable, enfin agréable pour vivre et pour se promener dans la ville. Ouais. Et puis j'étais accompagné par Jean Blaise, pour directeur de cette exposition, qui m'a proposé certains lieux. Et assez rapidement, je suis tombé sur les espaces entre les fenêtres qui font comme une fenêtre, mais il y en a pas. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de placer là mes sculptures en céramique.
Parce que les façades donc dont on parle, d'Auguste Perret, en effet, elles ont comme une rythmique. C'est ce qui fait, à mon sens, l'un des grands intérêts de l'architecture de Perret, c'est la manière dont elle est presque mathématique, musicale, et l'alternance d'ouverture et de fermeture. Il y a des rectangles qui font place à de vraies fenêtres, entre guillemets, et d'autres rectangles qui sont pleins. Très rapidement, vous vous êtes dit que ce serait sur un immeuble, que ce serait sur des façades, et immédiatement, ou c'est Jean Blaise qui vous a un peu conduit vers cet endroit-là?
Ouais, enfin, il avait une autre idée de placer des sculptures sur des terrasses, mais pas des bas-reliefs, mais des sculptures en plein. Mais ça, c'était trop compliqué, et c'est aussi contre ma façon de créer, parce que je veux pas qu'on pense qu'il y a vraiment qu'il y a des personnes, enfin que ce sont des sosies des personnes humaines, enfin une sorte de naturalisme. Mmh. Enfin, je veux toujours que ça soit clair qu'il s'agit d'une sculpture, enfin d'une œuvre d'art, et ne pas faire de trompe-l'œil de la façon qu'on pense qu'il y a quelqu'un qui est là. Mais alors j'ai proposé ces espaces entre les fenêtres et les bas-reliefs. Ils sont d'une taille un peu sur l'échelle humaine, c'est-à-dire 2 mètres, quelques, mais de loin, on pense que ça pourrait être des gens. Mais c'est clair que ce sont plus des images de personnages que des vrais personnages qui sont là.
On reviendra évidemment sur ce que j'appelais dans mon introduction cette forme singulière de présence, parce que moi je sais que, et je sais pas toujours où, mais je sais que ça fait des années que je vois ces sculptures, et qu'il et elle ont toujours laissé en moi cette présence qui est très clairement du côté de l'œuvre d'art, mais qui flirte avec une présence plus organique, vivante, je pense que c'est le mot, Stéphane Balkenhol. Peut-être pour rester sur l'installation, sur le rapport au lieu, un été au Havre, mais comme les propositions de Jean Blaise aussi dans la ville de Nantes, c'est très en lien avec le territoire, c'est très en lien avec les villes, avec les lieux, avec ce qui est déjà là, avec les gens qui vivent. Est-ce que vous avez toujours la chance, justement, de réfléchir à ce point, aux œuvres d'art produites et installées, et à leur relation avec l'espace dans lequel ils sont montrés?
Oui, enfin, la relation entre la sculpture et l'espace, c'est l'essentiel, quoi. Enfin, je décide ce que je fais par rapport au lieu. Et
que vous voyez toujours avant, que vous visitez toujours avant.
Ouais, ouais. Et puis, il faut que ce soit un endroit qui demande quasiment la présence d'une sculpture, et Le mieux, ce qui m'arrive, c'est que ce soit une ambivalence entre quelque chose de imprévu, de irritant et de normal. Enfin, enfin, d'un côté, on pense que oui, bon, ça a été toujours là, et de l'autre côté, on dit mais tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est là que le spectateur, il commence à réfléchir et à penser et à chercher dans son souvenir de perception, qu'est-ce qui est différent, que la sculpture, elle présente une sorte de question par rapport au spectateur et par rapport à lui-même. Quelqu'un a dit une fois que mes sculptures, c'est un mélange entre un miroir et un écran de projection. Enfin, d'un côté, on se
reflète.
On se reflète et on peut se mettre dans la peau de la personne aussi. Enfin, et ça, c'est aussi au-delà des questions gender, enfin homme-femme. Enfin, il y a aussi des femmes qui peuvent se mettre dans l'expression d'une sculpture d'un homme. c'est bizarre, mais ça arrive.
Mais c'est entre la très grande familiarité, je parlais de quotidienneté dans l'introduction, mais presque de banalité en fait, et comme vous le dites, d'une étrangeté, voire d'une inquiétude, mais j'aimerais bien qu'on revienne, même si j'imagine que c'est difficile à mettre en mots, mais vous dites, Stéphane Balkhonol, il y a des espaces qui presque appellent ou demandent des sculptures. Comment vous le sentez?
Je sais pas, c'est une sorte de inspiration, mais aussi peut-être dans ma mémoire visuelle, quelque chose que je capté depuis mon enfance. Enfin, je sais pas, j'étais élevé dans une famille catholique, alors on va dans les cathédrales, on voit les sculptures dans les façades ou dans les socles, où enfin on est assez familier avec cet langage de présence de sculpture dans l'architecture, et c'est sûrement dû à ma culture personnelle que je fais des liens. Les sculptures modernes, l'architecture contemporaine, elle n'est pas ornementée, des fois assez, elle présente un espace vide, mais justement c'est là que je cherche le contraste entre la figuration et l'abstraction de l'architecture, si on veut aussi.
Est-ce qu'il y a des fois où vous vous promenez sans nécessairement être au travail, si tant est qu'il y ait des moments où vous promenez sans être au travail, Stéphane Balkhonol, et vous vous sentez, vous n'avez pas l'air d'être, vous avez l'air de toujours vous promener en travaillant, et vous sentez, ah ouais, tiens, là, il manque quelque chose, il manque quelque chose de sculptural, il manque de la matière.
Ouais, ça m'arrive, bien sûr, mais bon, des fois, ça arrive aussi, enfin, que je suis invité à une expo, et puis il y a pas de raison pour mettre quelque chose, et puis où c'est moins évident, quoi. Enfin,
et vous faites quoi? Vous avez la force dans ces cas-là de dire, ah ouais, en fait, peut-être il ne faut pas rajouter quelque chose ici?
Ouais, ou très je mets en clair que dans mon installation que je cache carrément des sculptures. Enfin, une fois, j'étais invité au musée du Städel à Francfort, et ils m'ont proposé le pré, le gazon là derrière le bâtiment. Enfin, c'était dans les années 90, et il n'y avait pas encore le nouveau annexe là qui a été construit récemment. Et là, j'ai mis des espèces de petites maisons, cabanes en pierre, et à l'intérieur il y avait les sculptures.
Et on pouvait pas les voir.
On pouvait juste les voir par des petites fenêtres, comme dans les châteaux forts. Mais de l'extérieur, on voyait juste les deux cabanes. C'était un couple, homme et femme, qui était dans une certaine distance. parce que je voulais pas exposer les sculptures sur le gazon, parce que la nature elle est déjà assez parfaite dans un parc. C'est pas nécessaire d'ajouter encore quelque chose.
Dans votre parcours, dans votre formation artistique, très rapidement, la sculpture, elle a été comme une évidence. Je parlais de cette exposition au portique qui montre que elle n'est pas seule dans votre travail. Vous ne faites pas que sculpter, même si c'est massif dans votre pratique. Est-ce que vous sauriez nous raconter comment elle s'est imposée à vous? Comment vous vous êtes dit, Stéphane Bacconnel, en fait, moi, ma pratique artistique, ce sera de faire ça, surtout ça?
Je ne sais pas, c'est mon tempérament que de créer en trois dimensions. C'est peut-être parce que il y a un côté physique. Bon, j'utilise la plupart du temps le bois que j'aime bien parce que il m'impose une certaine un certain temps, ça peut aller assez vite, mais pas trop vite, comme, admettons, si je fais des sculptures en argile, ça peut aller très très vite. Par contre, en bois, ça prend quand même un peu de temps, alors j'ai le temps de réfléchir en travaillant, c'est-à-dire, quand je travaille, la moitié du temps, ce sont des pauses. Je tourne autour de l'œuvre et je garde et je me demande où est-ce que je continue. Et c'est une sorte d'interaction entre le matériel, la forme et ma pensée, ma main. On dit aussi le sculpteur, il pense avec ses mains. Et c'est comme si on écrit ou si on fait... c'est un poème pianiste avec... Il fait la musique avec ses mains.
C'est souvent que la musique revient dans votre parole, sur votre travail. J'ai l'impression que c'est présent dans votre pensée. Tout à l'heure, quand on faisait les essais de micro, vous avez tout de suite fait des essais de micro avec des chiffres. Mmh. Donc on a rapidement parlé des mathématiques et vous avez tout de suite bifurqué sur la musique. Ça a quoi comme place?
Non, mais j'envie un peu les musiciens parce qu'ils ont l'avantage que la musique elle rentre tout de suite dans le corps. Il y a aussi on peut la comprendre aussi avec le cerveau, parce qu'il y a justement un côté arithmétique ou mathématique dans la musique. Et si on sait quelque chose sur la solfège, on comprend la théorie derrière, mais ça rentre tout de suite dans la peau, c'est quelque chose. Et la sculpture, c'est un peu pareil. Enfin, c'est sensuel. Il y a une sensualité. Ça évoque quelque chose chez le spectateur. Il peut trouver une sorte de beauté. Physiquement, ça prend de la place. Au spectateur, enfin ça réagit dans l'espace, ça a une sorte de monumentalité.
On va continuer à parler du bois avec un autre sculpteur, Katsura Funakochi, au micro de France Culture en 1988.
Ce qui se dégage de mon travail dépend surtout de la manière dont j'utilise le bois. De tous les matériaux de la sculpture, c'est celui qui se rapproche le plus de la couleur de la peau. Une couleur, en tout cas, bien plus chaude que le fer ou la pierre. Ce n'est pas le bois en lui-même qui m'intéresse, mais la manière dont je peux en jouer. Et de tous les bois, c'est le camphrier qui me convient le mieux. Pas trop dur, comme le keyaki. Plus facile à couper que le cyprès. Mais surtout, après polissage, c'est un bois avec lequel j'arrive à rendre la présence que je cherche. Et puis, bien sûr, il y a le plaisir que j'ai à le tailler. Plaisir que ne me donne jamais la pierre, parce qu'elle casse. Et ça, C'est quelque chose que je ne supporte pas. C'est terrible quand vous travaillez et que vous portez la dernière main à la pomme d'Adam d'un buste, par exemple. Que la tête puisse tomber à chaque instant. Avec le bois, je n'ai pas ce genre de risque. Je n'ai pas ce genre de peur que j'ai toujours avec la pierre.
En sculpture, par les temps qui courent. Marie Richeux avec Stefan Pakenbrück.
Le sculpteur Katsura Funakuchi qui détaille à l'espèce de bois près ses préférences, son plaisir à tailler certains bois, à le polir. Vous faites un travail évidemment extrêmement différent, Stéphane Balkenol, mais néanmoins vous travaillez vous aussi le bois depuis des années. Est-ce que vous sauriez dire ou redire quel plaisir vous y trouvez, quel sens aussi? Lui il disait pas la pierre parce que la pierre ça casse et quand ça casse ça me fait peur.
Bon, le bois, il peut aussi casser. Enfin, c'est... on peut le recoller si c'est besoin. Non, mais j'ai rencontré Funakuchi une fois quand je suis allé au Japon dans son studio et puis j'étais dans son atelier. J'étais assez impressionné parce que c'était complètement propre. Enfin, il n'y avait pas de poussière ou de petits morceaux de bois qui traînaient, c'était comme un showroom.
Mais c'était peut-être rangé pour vous, pour votre passage, non?
Ouais,
c'était tout le temps comme ça?
Oui, je crois que c'était comme un musée de sculpteurs. Mais bon, peut-être, je crois qu'il avait un autre lieu pour travailler les sculptures. En tout cas, c'était son espace en ville. Et puis, bon, on a eu un petit entretien, c'était assez sympathique.
Vous avez parlé d'autre chose complètement de l'art ou vous avez quand même évoqué la sculpture?
Oui, oui, non, mais il travaille le bois, mais complètement différent. Il prend beaucoup de temps, il ne fait pas beaucoup de sculptures par année, je crois. Enfin, peut-être une dizaine maximum, ou enfin très, très peu. Et bon, c'est aussi lié à sa culture japonaise ou asiatique. C'est comme un culte, un peu, j'ai l'impression, chez lui. La façon comme il exerce son travail chez moi, c'est très différent. Ça m'arrive que je peux travailler très vite. Que je fais une sculpture dans une nuit. J'aime bien travailler la nuit parce qu'il n'y a pas d'interruption, pas de téléphone, pas de bureau ou de choses qui interviennent. Mais bon, ça arrive aussi que je prends beaucoup plus de temps. La surface... Dans mes sculptures, elle est assez ouverte. On voit un peu déchiffrer sur la surface combien de temps j'ai pris finalement pour la sculpture, si c'est très ouverte ou si c'est assez fin. Et comme j'avais dit avant, le bois, il me... Comment dire en français C'est le bois qui détermine le temps que j'ai besoin pour terminer une sculpture. Quoi.
Et quand vous dites ce bois, c'est-à-dire quoi? Cette espèce de bois ou ce tronc-là en particulier?
Oui, enfin la densité, la dureté, si c'est un bois léger ou un bois dur. Ou bien sûr, si c'est un grand volume, ça prend plus longtemps. La pierre, j'ai aussi, comme étudiant, j'ai travaillé la pierre. Aussi, une fois dans une carrière en Normandie, à Vire, le granit. Et ça a pris beaucoup trop longtemps. Et j'ai pas aimé, enfin pas pour la sculpture figurative en tout cas. Et
ça tient à quoi? Ça veut dire que vous avez besoin que ça apparaisse plus vite? Vous avez besoin que ça existe vite?
Ça existe vite et que ça a une... le bois, il est moins important comme matière que la pierre. Enfin, avec la pierre, il y a encore la transmission de l'éternité, et puis une sorte de beauté de la matière elle-même. Et on n'ose pas le peindre aussi. Enfin, c'est quelque chose qui est différent. Et puis le bronze, il est aussi un peu plus hiérarchique. Enfin, c'est plus...
Précieux, quoi.
Précieux, oui. Et le bois, c'est éphémère. Enfin, c'est comme le papier quand on dessine. Mon intention, c'est pas de montrer la beauté du bois. Pour moi, c'est juste une matière pour créer une forme.
Justement, puisque vous parlez de forme, Stéphane Balkenhol, il faut qu'on en vienne à parler. Alors, tout à l'heure, j'ai utilisé le mot de silhouette, de corps aussi. Il y a quelque chose de précis dans le jeu des échelles. Vous disiez, j'ai pas envie de faire du trompe-l'œil. J'ai pas envie qu'à aucun moment on se dise, en fermant légèrement les yeux, qu'il y a quelqu'un là-bas. Néanmoins, vous êtes hyper précis sur la manière dont des omoplates peuvent se placer, sur comment une nuque est, un menton, dans la manière aussi dont vous discutez avec vos étudiants. Il y a un petit documentaire qui vous voit travailler avec une étudiante et puis vous pouvez parler de la taille des pieds. Et je me suis demandé, mais quelle est la forme de savoir anatomique dont vous disposez? Même il y a une sculpture de vous qui est un squelette. Je dis, qu'est-ce que vous savez de tout ça? À quel point vous l'avez étudié précisément?
Mais j'ai déduit chaque fois à nouveau. Enfin, j'ai jamais appris à l'école l'anatomie, le corps ou le modelage, portrait. C'est chaque fois à nouveau... une tâche de chercher la forme ou la l'expression. Et des fois, il s'agit pas de d'arriver sur une sorte de naturalisme. Des fois, c'est les fautes en apostrophe qui sont plus vraies que la nature. Enfin, c'est une sorte de c'est mon travail, c'est peut-être un mélange entre abstraction et réaliste. Forme réaliste, mais important dans les échelles, c'est aussi qu'ils ont presque jamais échelle taille humaine, c'est-à-dire ils sont sous échelle humaine ou au-dessus. Enfin, et là aussi, j'ai trouvé que des sculptures plus petites, ils ont des fois une plus grande monumentalité dans l'espace que les grandes. C'est ce qui de quoi Alberto Giacometti parle, bien sûr, dans son travail. Et lui, il a fait des tout petites sculptures qui
sont bouleversantes.
Qui projettent justement leur image dans l'espace. Et comme l'espace est vide, cette projection imaginaire, que c'est la tâche du spectateur qui le ressent, est plus manifeste, quoi.
Et alors, qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, vous faites sortir du bois un immense tronc, d'ailleurs, d'homme, un torse d'homme? Qu'est-ce qui se passe en termes d'échelle pour vous? Parce que, tout de même, par exemple, je prends l'exemple de ce grand torse. Il y a une finesse dans la pensée des pectoraux, dans la pensée des épaules, qui fait que peut-être, je sais pas, moi je connais rien à ça, peut-être que les proportions, elles sont pas justes, parfaites, etc. Mais il y a un trouble qui vient de ces proportions-là et qui rend la chose vivante. Donc ça veut dire qu'elles sont, pensées par vous, Stéphane Balkenhol, cette histoire de proportions. Et précisément.
Oui. Non, mais il y a cette sculpture dont vous parlez, c'était un grand torse d'un homme qui était conçu pour un espace à Rome, le Forum romain. Donc un terrain de ruines et de antiques. Et normalement, c'était prévu qu'on ne pouvait pas approcher de la sculpture, c'était parce que c'était un terrain fermé au public et on pouvait juste le voir de loin. Et c'est pour ça aussi que j'ai dû le faire assez grand. Enfin, il fait 6 mètres de haut presque, pour qu'il soit adopté à cet espace et qui fonctionne là-dedans. Et de loin, c'est comme une petite sculpture, si on veut. Mais ouais, et puis bien sûr, c'est bizarre quand on travaille là-dessus, parce que faut toujours, pour travailler, il faut s'approcher, bien sûr, mais pour regarder, il faut s'éloigner. Alors c'est j'ai toujours couru aller-retour pour voir ce que j'avais fait. Et ce qui est aussi différent, c'est que pour la surface, la superficie, on peut pas utiliser des ciseaux à bois qui font, je sais pas, 30 cm de large, parce que c'est
trop lourd à porter.
Ouais, c'est on n'a pas assez de force pour faire un coup là avec un truc comme ça pour faire ressembler la surface pareil qu'aux petites sculptures. Alors bien sûr, la surface, elle est plus fine, cette grande sculpture, mais il faut la modeler. C'est comme quand on voit les sculptures de Modelin, de Auguste Rodin, et chaque centimètre, on voit qu'est-ce que c'est. On peut imaginer le reste du corps dans chaque partie du corps. On voit les muscles, les tendons ou n'importe, enfin les os.
Il y a des sculptures de vous dans le monde entier maintenant, dans des collections privées, publiques, parfois aussi dans des endroits où vous les avez installées et puis où elles sont restées. Peut-être que ce sera le cas d'ailleurs pour le Havre, vous savez déjà ? Non, elles vont toutes partir de la ville.
Pardon ?
Les sculptures, les bas-reliefs, ils vont toutes partir de la ville ?
Non, c'est les bas-reliefs, ils vont rester.
Ils vont rester. Ouais. Donc il y en a comme ça partout. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que pour vous, elles existent ? Est-ce que c'est une sorte de grande population dont vous avez conscience depuis des dizaines d'années que vous les fabriquez, réalisez, Stéphane Balkenhol ?
Je disais une fois que mes sculptures, c'est comme un enfant de moi. Enfin, si je fais une sculpture. Et puis, il y a aussi le processus de le faire, c'est comme une grossesse. Il y a une sorte d'euphorie, mais il y a aussi une sorte de mal, de douleur, et des fois aussi de tristesse. Ou
dans la perte.
Ouais, mais une fois qu'ils sont au monde, ils sont aussi indépendants, ils s'éloignent aussitôt de moi, ils amènent leur propre vie, et surtout les sculptures à l'extérieur, on voit qu'ils changent des fois avec les intempéries, ils changent l'aspect un peu, et puis quand je les regarde après un certain temps, on voit qu'ils ont vécu quelque chose, c'est intéressant à voir. Et puis récemment, j'ai aussi retravaillé sur une sculpture que j'avais fait à Amiens. Un homme sur une bouée. Et elle était tombée dans l'eau, et puis il fallait pour l'extérieur, il fallait la remplacer. Mais j'ai quand même restauré l'ancienne pour la présenter après à l'intérieur.
Est-ce que ça faisait comme des retrouvailles ?
Ah oui, c'est... Des fois, c'est un peu bizarre, parce que je peux plus imaginer que moi je l'avais fait, parce que maintenant comme artiste, on évolue, on travaille différemment quand même, même si c'est le même sujet. Ils ont un aspect un peu différent après 20 ans ou 30 ans.
Il y en a que vous oubliez ?
Ah oui, ça arrive que Enfin, ils ne sont pas complètement oubliés, mais quand je les revois, je sais que c'est moi qui les a fait, mais... C'est... Je travaille toujours en avant, enfin, j'essaie de... Quand je travaille sur une sculpture, c'est aussitôt une... Le début de la sculpture suivante, c'est comme un processus que une promenade j'aime pas trop regarder en arrière en fait dans mon propre travail.
Qu'est-ce qui dans une sculpture annonce ou promet la sculpture d'après?
Mais ça peut être une découverte d'un problème sculptural ou d'une technique. Et par exemple, là, je fais des bas-reliefs où une sorte de paysage et derrière les bustes, enfin les personnages, c'est bien sûr c'est rien de nouveau parce que enfin je me suis inspiré de la peinture de la Renaissance, quoi, enfin. Par exemple, de la Joconde, on voit le paysage derrière dans le flou qui est prononcé aussi avec les couleurs. Comme. Et ça, j'ai fait maintenant en bas-relief, mais avec des thèmes, des nouveaux thèmes, quoi, enfin, quotidiens, enfin, contemporains, si on veut. Et de là, l'autre fois, j'ai créé une sculpture d'une femme avec une robe longue, et ça m'a donné envie de juste travailler les plis d'un tissu comme bas-relief. Mais bon, il faut pas parler des choses qu'on n'a pas encore faites.
C'est comme en fait le déroulement d'une pensée. Vous disiez de sculpture en sculpture, c'est une promenade. Ça peut être aussi une sorte de rêverie, de pensée, quoi, si on va du côté des mathématiques, comme on l'était tout à l'heure, de démonstration, de cheminement.
Ouais. Mais c'est comme les aventures ou les choses que quelqu'un peut. À vivre lui-même, enfin les aventures de quelqu'un, quoi, enfin les comme je sais pas une figure d'un roman, qu'est-ce qui peut lui arriver, quoi,
à vous ou à vos sculptures,
à mes sculptures et à moi aussi, enfin ce qui m'intéresse c'est la condition humaine, quoi, enfin tout ce qui est essentiel à notre existence. Et mais c'est pas enfin j'aime pas la mettre en scène d'une manière descriptive, juste enfin mes sculptures, ils n'ont pas de message direct expressif, mais c'est un peu une proposition d'un thème ou d'un contexte, mais le préciser, c'est au spectateur de le faire, quoi.
Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens, l'existence. Il a demandé leur avis à des tas de gens ravis de donner leur avis sur la vie. Il a traversé les vapeurs des derviches tourneurs, des hachiches fumeurs, et il a dit: la vie ne vaut rien, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami. Et là je dis: rien, 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 rien ne vaut la vie. Il
a vu l'espace qui passe entre la jet set, les fastes, les palaces et puis les techniciens de surface. D'autres espèrent dans les cloches et les monastères voir le vieux sergent Pépère, mais ce n'est que Richard Gere. Il est entré comme un insecte sur site internet, voir les gens, les sectes, et il a dit: la vie ne vaut rien, la vie ne vaut rien. Mets-moi quand je tiens, tiens, mets-moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon âme. Là je dis rien, 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 rien ne vaut la vie. Il a vu manque d'amour, manque d'argent, comme la vie c'est détergent et comme ça nettoie les gens. Il a joué jeux interdits pour des amis endormis, la nostalgie. Et il a dit: la vie ne vaut rien, rien, non, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis: rien ne vaut la vie, rien, 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 rien ne vaut la vie, rien, 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 rien ne vaut.
France Culture. Par les temps qui courent, Marie Richeux avec Stéphane Pakenroy.
Moi je crois que la nécessité pour quelqu'un qui fait un travail individuel comme je fais, c'est déjà de faire quelque chose qu'on aime faire, qu'on a le plaisir de faire. Mais c'est un langage. C'est un langage. Et le langage est fait pour communiquer avec les autres personnes. Et le caractère de l'œuvre, comme je dis avant, c'est, qui a besoin de durer dans le temps, il dépasse la vie de l'homme pour dialoguer avec les vies d'autres hommes, mais c'est quelque chose qu'on voit dans tout le travail de l'homme. Un écrivain, il écrit pour lui, pour les ses contemporains, mais aussi pour ceux qui viennent après. Et c'est peut-être aussi un désir de survivance, mais c'est une stimulation probablement très animale, non? C'est celle de une idée de survivre à soi-même. Mais surtout, c'est le plaisir de faire des choses, d'avoir un contact avec la réalité et une action qui est basée sur l'émerveillement et sur le plaisir aussi et sensuel de la matière. Ce que je fais d'habitude, je jette pas, parce que ce qu'on voit qui n'est pas bon dans un moment, peut-être devient intéressant dans un autre. Et souvent ça arrive, c'est pas toujours, il y a des choses qui sont ratées, sont vraiment ratées, il faut les mettre à la poubelle, mais il y a beaucoup d'œuvres qui ont des caractères qui avaient une valeur, qui n'ont pas été exploitées et que dans un futur peut-être on comprend mieux.
On entend la voix de Giuseppe Pennone au micro d'Arnaud Laporte. C'était diffusé à l'antenne en août 2019, mais c'est une masterclass qu'il a enregistrée au Centre Pompidou au printemps. Plusieurs choses dans cette archive, Stéphane Balkenol. Déjà, peut-être juste le plaisir de faire. Tout à l'heure, je vous ai dit, je ne sais pas si ça vous arrive de vous promener sans travailler. Est-ce que ce plaisir de faire des sculptures, de faire des formes, de sculpter, il fait que vous n'avez pas de plaisir à faire autre chose que ça?
Ouais, c'est bien possible. En tout cas, comme artiste, on n'arrête pas de travailler, même si on crée pas, on travaille, c'est-à-dire on regarde ou on on écoute, on se promène, on pense, on réfléchit. Si je lis un livre ou si j'écoute une musique, ça peut rentrer dans le travail. Si je regarde un film, ça peut m'inspirer ou ça peut me porter à des questions qui font partie d'une future sculpture. Et en fait, la création elle-même, elle fait peut-être 10% de tout. Mais c'est quelque chose qui est très... que je me réjouis beaucoup parce que on est Dieu, quoi. On peut créer, on peut faire quelque chose de nouveau. Enfin, on ajoute sa propre réalité à la réalité qui existe déjà. Et peut-être en essayant de changer la réalité qui est autour. Parce qu'on n'est pas assez... enfin, peut-être il y a une sorte de manque. C'est pour ça que il faut que moi je fasse ces sculptures-là pour les ajouter à la réalité autour. Ce sentiment de manque. Je me retrouve beaucoup dans les mots de Pennone. Et il y a aussi ce côté de créer quelque chose qui me survit ou de chercher une sorte de immortalité parmi les œuvres, mais bon, c'est quelque chose de un peu romantique parce que je crois que ça m'arrive que je suis assez amoureux d'une sculpture que je viens de faire et quand je la revois, je sais pas, quelques semaines après ou un mois, je dis
c'est passé.
Enfin, c'est moins important, mais ça peut aussi arriver que 2 ou 3 ans après, que c'est à nouveau intéressant.
Comme dans la vie, quoi.
Oui, c'est comme dans la vie, quoi. Enfin,
ce plaisir-là, il ne s'est jamais tari, il n'a jamais disparu. Par exemple, le fait que votre travail et vos productions aient une importance marchande, que vous soyez vendu parfois à de très grosses sommes, ça n'intervient pas dans ce que vous décrivez d'un processus extrêmement intérieur, intime et très personnel, Stéphane Balkenhol. Jamais ça ne vient le troubler.
Bah, j'essaie de ne pas penser à le reste, quoi. Enfin, c'est quand je suis dans mon atelier, je pense à ma sculpture que je suis en train de faire et ça m'arrive aussi que j'ai des... j'ai une expo à une galerie et je crée des œuvres pour cette exposition, mais je crée quelque chose que je suis sûr d'avance que c'est quasiment invendable parce que c'est trop grand ou trop spécial ou d'un côté bizarre ou je sais pas. Enfin, ça m'intéresse. Ce côté économique, elle m'intéresse par la création. Quand je travaille pour une expo,
c'est pas un truc qui vous encombre, en tout cas. C'est pas quelque chose qui vous empêche de travailler.
Non.
Rapport économique.
Non, c'est bien sûr quand je travaille sur quelque chose de très grand ou très compliqué à faire, et il y a déjà un contrat qui existe et parce qu'il y a un côté production qu'il faut payer et tout ça. S'il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est justement le côté qui m'amène à une autre sculpture que j'avais dit avant, quoi. Que alors à ce moment-là je préfère de faire 2 ou 3 sculptures que de laisser une
patienter,
non fini.
Il y a une autre partie de votre vie qui a trait à l'enseignement, à la transmission, au travail avec des jeunes artistes, des jeunes étudiants. On va écouter une archive qu'on ne sait pas exactement dater, on n'a qu'à dire dans les années 70, l'artiste Joseph Beuys.
Je crois en effet que Düsseldorf est une ville très importante pour la sculpture, traditionnellement, dans la voie traditionnelle. Mais maintenant, il faut trouver une voie nouvelle pour l'avenir. Il faut trouver des idées très nouvelles pour l'art. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est plus de faire des sculptures pour décorer la ville. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est de lancer une nouvelle structure au niveau de l'éducation, dans toute l'éducation. Par exemple, en ce moment, je suis en train d'essayer de fonder une école libre internationale de créativité et de recherche interdisciplinaire, et cela concerne les idées nouvelles sur l'art. Il faut essayer de trouver une conception plus large de l'art, de la science, de l'urbanisme, dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la société.
Joseph Beuys, j'essayais de lister comme ça l'école des rêves, libre, internationale, de la créativité, interdisciplinaire, ça fait beaucoup pour une seule école. Mais c'est important, et ça a toujours été extrêmement important dans son parcours d'artiste, cette idée de l'accessibilité à l'enseignement artistique pour Joseph Beuys. Vous, ça se situe où, la place de l'enseignement dans votre pratique? Parce que on parlait de votre existence dans le marché de l'art, il y a des gens qui enseignent parce qu'ils ont aussi besoin de manger, parce que c'est aussi une manière d'avoir de l'argent. Il se trouve que c'est pas exactement votre nécessité, alors elle est où cette nécessité d'enseigner?
Je suis depuis presque une trentaine d'années maintenant dans l'enseignement, mais ça me force de préciser certaines idées qui sont autrement assez floues dans ma tête, et de réagir sur des œuvres que mes étudiants me présentent. Et c'est une sorte de gymnastique de la tête et de la perception que j'aime bien. Et j'avoue que il y a aussi c'est pas une impasse, mais c'est un processus vice versa. Enfin, ça m'arrive aussi que d'apprendre quelque chose des étudiants, quoi. Enfin, c'est
qui va se trouver d'une manière ou d'une autre traduit dans votre travail personnel.
Ouais, ou c'est juste la façon de penser de sur les choses, ou de réagir sur les idées qui sont des idées contemporaines, ou les idées sur l'art. C'est parce qu'autrement, comme artiste, on est assez seul. Il y a une certaine solitude dans l'atelier que j'aime bien aussi pour créer. Enfin, il me la faut, mais dans la tête, c'est pas trop bien si on est toujours seul. Et il y a quelques confrères, consoeurs, je sais pas comment dire. artistes de mon âge avec lesquels je suis ami, mais on discute rarement fondamental sur l'art, mais avec les étudiants c'est tous les jours, et ça c'est quelque chose de bien, je trouve.
On n'a pas parlé de la manière dont vous choisissez radicalement la figuration dans un temps qu'il ne l'aimait pas trop, au moment où vous avez commencé à produire Stéphane Bacchanal. On entendait là, dans la voix de Joseph Beuys, l'idée d'avoir des formes nouvelles, des idées nouvelles. Vous croyez dans l'idée de la nouveauté au sein de la pratique artistique?
Oui, enfin, dans les années 70, progression de l'art, elle se faisait encore linéaire, c'est-à-dire il y avait ça, et après il y avait
par mouvement
un mouvement qui réagissait ce qu'il y avait avant et remplaçait l'autre et mettait encore quelque chose au-dessus. Mais moi, je pense à partir des années 80-90, il y a tout qui est possible, et il n'y a pas de je ne sais pas s'il y a encore une idée de qu'un progrès ou qu'une idéologie qui peut tout remplacer ce qu'il y avait avant. Et là, les artistes des années 70, ils avaient encore cette idée de progression, enfin leur, enfin aussi mon professeur dans le temps, Ulrich Röckrim, lui, il faisait le chemin inverse que le mien. Il faisait au début, il a créé des sculptures figuratives, et après, il a créé des sculptures pas abstraites, mais réalistes, concrètes ou minimalistes, juste tailler des pierres, quoi. Enfin, sans représenter quelque chose. Moi, je fais le chemin inverse parce que, justement, l'image de l'homme, elle était, il a disparu dans les années 70. Et je me suis demandé pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et j'ai fait une sorte de recherche. Et j'ai trouvé que la plupart du temps, l'image de l'homme dans la sculpture, c'était juste un message pour quelque chose qui faisait pas partie de l'art. Enfin, c'était pour représenter quelque chose, une idéologie ou une personne importante. Et retrouver l'image de l'homme, mais sans ce message de l'extérieur, mais de... c'était comme peut-être le désir d'une pause, d'un vide, que l'homme, le spectateur, il pouvait remplir. Enfin, c'est comme un monument, à monsieur ou madame tout le monde. Mais sans message de... Je viens de installer une sculpture à Toronto, au Canada, et là, il y avait des passants qui se sont arrêtés. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça... qui c'est? Pour ça, ils voient que c'est un homme qui porte un gratte-ciel dans les mains. Enfin, il fait quelque chose quand même, qui est placé à l'extérieur. Mais ils sont irrités parce que c'est pas clair si c'est à monsieur Wilson ou n'importe qui, ou ça les irrite complètement que ça peut être n'importe qui, quoi. Enfin, c'est assez bizarre de voir ça.
Merci beaucoup, Stéphane Balkenhol. Votre travail est visible sous plusieurs formes en ce moment dans la manifestation Un été au Havre, jusqu'au 22 septembre dans la ville. En fait, finalement, pour tout le temps, les bas-reliefs sur les façades des immeubles Auguste Perret, et puis au centre d'art Le Portique jusqu'au 29 septembre. Et la programmation est riche, on peut évidemment aller voir l'ensemble des artistes invités exposés dans Un été au Havre, à la prise de son Claude Niort, à la réalisation Lise-Marie Barret. Par les temps qui courent, c'est Jeanne Aléos, Romain Debec de Lièvre, Marianne Chassor et Lucie Riandet. On vous invite tous et toutes à vous abonner au podcast ou à réécouter l'émission via les applis ou le site internet franceculture.fr. Très belle soirée sur France Culture, le journal 22h.